Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Vincent Derosier.
Merci d'être avec nous pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Adrien Gendre de TF1
LCI. Bonjour.
Bonjour Adrien Gendre. Et Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume Roquette.
Alors, dans la question en plus tout à l'heure, c'est Éric Alte, président de l'association Anticor, qui vous interrogera sur la privatisation des aéroports de Paris. Et puis en fin d'émission, bien sûr, c'est Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra sur ce plateau pour vous poser les questions nettes. Et d'ailleurs, nous vous invitons à participer tout de suite sur les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury, à poser toutes vos questions et toutes vos interpellations à Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche. Alors Gilles Legendre, on le disait, vous êtes le patron des députés à l'Assemblée nationale. Pour beaucoup de Français, votre job au quotidien n'est peut-être pas très concret. En ce moment, on pourrait dire que vous êtes un peu le pompier de service, chargé d'éteindre les polémiques à répétition. Le chirurgien également, qui tente d'arrêter l'hémorragie et le départ des députés La République En Marche qui quittent le groupe. On rappelle qu'ils sont déjà 14 à avoir quitté le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. On va bien sûr avec vous parler de la réforme des retraites qui arrive demain dans l'hémicycle avec un nombre d'amendements records sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, le sujet du jour, évidemment, la déflagration Benjamin Griveaux. Le candidat La République En Marche à la mairie de Paris a renoncé en moins de 48 heures pour des vidéos à caractère sexuel diffusées sur les réseaux sociaux. C'est Adrien Gendre qui vous pose la première question.
Ce qui a frappé Gilles Legendre, c'est la rapidité de la décision de Benjamin Griveaux. On se pose une question très simple. Est-ce qu'il n'avait d'autres choix que de renoncer? Est-ce que c'était la meilleure chose à faire à la fois pour lui à titre personnel, mais aussi pour la campagne municipale à Paris?
Sur le plan personnel, lui seul était juge, et il a d'ailleurs pris soin de rappeler qu'il avait pris sa décision librement. Cela dénote, au passage, un courage exceptionnel que je souhaite saluer. Vous vous êtes placé dans cette lessiveuse. Vous êtes placé face à cette monstruosité qui consiste à voir votre vie privée dévoilée d'une manière scandaleuse. Personne ne peut dire ce qu'on aurait fait à sa place. Alors après, il y a la question des principes. Et je vois parfaitement le risque que nous encourons tous, vous journalistes, nous classes politiques, mais aussi les Françaises et les Français qui nous écoutent. C'est de dire, après tout, ces politiques, ils doivent être exemplaires. On ne doit laisser placer aucune ombre dans leur existence et nous avons le droit de mettre en contradiction leur comportement privé et leur position publique. Je m'inscris en faux contre cette tentation. Quand le risque est si grand de voir notre société emportée par une spirale comme celle qu'on a vue se déployer mercredi et jeudi, nous n'avons qu'un seul refuge, celui des principes.
Mais vous ne
et
dites...
le principe, non, Adrien Gendre, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et le principe, c'est une cloison totalement étanche entre la sphère privée, la sphère publique et légale.
Ce que vous nous dites, les gens, pour être sûr de bien comprendre, vous nous dites, Benjamin Griveaux n'a commis aucune faute, pas même celle de l'imprudence.
L'imprudence n'est pas une faute légale, Adrien Gendre. Et quand on est sur cette cloison, sur cette frontière si sensible, mais ne nous méprenons pas. Je veux bien qu'on considère que les politiques doivent subir ou doivent être tenues d'un comportement particulier. Et c'est vrai que sur nos comportements publics, sur nos engagements publics, nous avons le devoir d'une grande transparence. Mais si nous ne tenons pas cette digue, y compris pour les politiques, c'est l'ensemble de la société qui va tourner dans une tendance, dans un précipice infernal. Nous devons tous lutter contre cette tentation.
Vous parlez de cette frontière entre vie privée et vie publique. Est-ce que la frontière est respectée quand Benjamin Griveaux se fait prendre en photo avec sa famille?
Mais Guillaume Roquette, je ne veux même pas rentrer dans cette nuance, parce que quand vous rentrez dans cette nuance, vous ouvrez la voie au relativisme. Vous ouvrez la voie à l'idée qu'il pourrait y avoir des nuances à apporter à ce principe qui est pour moi intangible, qui est une séparation absolue entre la sphère privée et la sphère publique. Alors, je me réjouis que Benjamin ait décidé de porter plainte et j'espère que la justice lui rendra le droit et l'honneur qu'en l'espèce, c'est les manipulateurs de cette affaire lui ont volé.
Alors, Gilles Legendre, est-ce qu'il fallait simplement sur cette question, et pour aller au bout de votre logique, si aucune faute n'a été commise, est-ce qu'il ne fallait pas maintenir la candidature de Benjamin Griveaux? Est-ce qu'il ne devait pas continuer dans cette campagne, aller jusqu'au bout?
C'est ce que je disais à Adrien Jeanne tout à l'heure. Sur le plan des principes, rien n'y empêchait. Mais la pression est si forte, le mal si installé, qu'il est extraordinairement difficile d'y résister. Et que quiconque a pu être placé aujourd'hui dans cette lessiveuse, avec les réseaux sociaux qui s'emballent et qui promettent une suite, un feuilleton, et de faire monter constamment la pression humainement, c'est infernal.
Alors Gilles Legendre, vous parliez à l'instant des manipulateurs, juste qu'on comprenne bien ce qui, de votre point de vue, s'est passé. Est-ce que Benjamin Griveaux est tombé dans un piège? Est-ce qu'on est face là à une machination politique?
Je ne le sais pas plus que vous, Adrien Jeanne. Je dis juste que tout ce qui commence à sortir autour des personnages, acteurs, et notamment l'acteur principal qui a diffusé cette vidéo, laisse planer quand même le doute sur l'idée que tout ça n'est pas né de nulle part. Maintenant,
moi, alors, dirigé contre Emmanuel Macron.
Je suis aussi scrupuleux dans le respect de la justice, de la police, des enquêtes et de leur indépendance pour qu'un politique que je suis n'est pas à s'en mêler.
Mais vous pouvez
attendons. Mais ce qui est bien, c'est que la justice soit saisie et que Benjamin Griveaux ait porté plainte.
Vous pouvez avoir quand même une intime conviction. Est-ce que, selon vous, il pourrait y avoir une forme de complot, de piège tendu à Benjamin Griveaux?
Nous verrons. Ça sera à la police d'abord, aux enquêteurs et à la justice de le déterminer.
Vous parliez de celui qui a mis en ligne cette vidéo. En l'occurrence, il s'agit de Piotr Pawlenski, d'après les éléments dont on dispose à l'heure actuelle. C'est un réfugié politique russe qui se définit lui-même comme artiste, performeur, opposant au président de la République française. Certains dans votre majorité, c'est le cas du député Bruno Ketel, demandent qu'on le mette, je le cite, qu'on le mette dans un avion direction la Russie et il verra avec M. Poutine s'il peut faire ce genre de conneries, passez-moi l'expression. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce qu'il faut remettre Piotr Pawlenski dans un avion?
Ça n'est pas à nous de le décider. Je conçois parfaitement qu'un certain nombre de collègues légitimement choqués par ce qui s'est passé aient pu émettre cette idée-là. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que maintenant, la justice va pouvoir faire son travail et la vérité, certainement, éclaté.
La justice va faire son travail, mais le problème n'est pas réglé. Le placement en garde à vue de Piotr Pawlenski ne règle pas le problème.
Ne règle pas quel problème, monsieur?
Ne règle pas le problème. Toute vidéo mise en ligne, cette situation peut se reproduire à l'infini.
C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que nous réagissions. Ce qui s'est passé est d'une gravité extrême et dépasse très largement la question de la République en marche, de l'élection parisienne, dont je suis sûr nous allons être amenés à parler. C'est une question qui touche au cœur notre société et notre démocratie. Et la responsabilité d'y apporter une réponse incombe évidemment d'abord aux autorités publiques chargées de faire respecter la loi, la police, la justice, et l'arsenal existe. S'il y a lieu, on le renforcera, cet arsenal, pour tenir compte de la spécificité qu'introduit dans notre droit, déjà très protecteur par rapport à la vie privée.
Rappelons ce qui existe aujourd'hui, 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
On verra. Mais vous voyez bien que la réaction, elle doit être morale, elle doit être collective et elle doit mobiliser tout le monde. Et de ce point de vue, dans les jours très sombres que nous venons de vivre, il y a des petites lumières. Je salue le fait que la classe politique, dans son ensemble, n'ait en aucun cas voulu exploiter l'événement à des fins politiciennes et se soit placée pratiquement unanimement sur ce terrain des principes. Mais j'entends aussi d'ailleurs les commentateurs, les philosophes, les intellectuels. Donc, il y a le début de quelque chose. Mais nous devons être d'une fermeté absolue sur ce plan.
Quelque chose de très important, Gilles Legendre, vous dites, là, il faut une réaction morale. Est-ce qu'il faut se contenter, se limiter d'une réaction morale? Vous commencez à dire, s'il faut modifier la loi, on verra, mais est-ce que vous comptez le faire? Et est-ce que sinon le risque, j'en reviens à 2022 effectivement, c'est pas de se dire que la présidentielle, dans 2 ans, un peu plus maintenant, ressemblera à une campagne comme celle-là?
Il est permis de le redouter, puisqu'un événement de cette nature a pu se produire. La question de la réponse législative, vous savez, j'ai beau être député et parlementaire, je me méfie de la tendance qui consisterait, 48 heures après un événement, aussi grave soit-il, à dire, allez, une nouvelle loi.
Oui, mais la question, est-ce qu'il faut une loi Griveaux, voilà, tout simplement.
Loi Griveaux, certainement pas, et je ne suis pas sûr que lui souhaiterait qu'elle soit nommée de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est qu'il existe aujourd'hui une protection très stricte de la vie privée. Ce qui change, c'est la nature des atteintes, et notamment l'effet d'amplification monumental et monstrueux que représentent les réseaux sociaux, qui par ailleurs peuvent présenter beaucoup d'intérêts et d'avantages. Mmh. Mais sur ce point-là, nous sommes dans un risque de régression démocratique flagrant.
Mais est-ce que vous ne découvrez pas un peu la Lune? Parce que ça existe depuis longtemps, on appelle ça en anglais le revenge porn.
Mais on le sait.
Des gens qui diffusent des vidéos sexuelles pour se venger, ça n'est pas nouveau. On se dit, c'est parce que ça touche quelqu'un de votre majorité que d'un seul coup, il faut réagir à tout prix.
Non, écoutez Guillaume Roquette, ne pensez pas ça. Vous remarquerez qu'à aucun moment, depuis le début de cette émission, je ne me suis placé dans une optique partisane ou partielle ou subjective. Je me suis placé exclusivement sur le seul terrain qui le mérite, la question du principe. Et de ce point de vue, j'entends défendre notre société démocratique. C'est le seul enjeu qui compte. Maintenant, vous avez raison, la force est d'une telle puissance qu'il sera probablement très dur de faire revenir le fleuve dans le lit.
Mais en tout cas, pays occidental, on a réussi à éviter ce genre de pratique.
Comment ça?
Dans aucun, je veux dire, il n'y a pas de législation.
Oui.
Aucun pays occidental ne peut verrouiller Internet, les réseaux sociaux.
Je suis désolé, moi je ne me suis pas engagé en politique pour penser que tout était inexorable et qu'il n'y avait qu'à rester les bras ballants.
Mais est-ce que vous ne vous dites pas tout de même, aujourd'hui chez Legendre, on est entré dans une nouvelle ère? On peut le déplorer,
mais
on peut le regretter.
Bien sûr qu'on l'est. Et alors? Ça veut dire qu'il faut assister aux choses les bras ballants, sans rien tenter, sans rien dire? Ça compte le discours en politique? Ça compte l'engagement, ça compte la mobilisation. Est-ce que la classe politique, est-ce que la classe médiatique, et de ce point de vue-là, chacun dans son rôle, et les rôles ne se confondent pas, a forcément une responsabilité à jouer.
On aimerait d'un
mot quand Français
même.
Aussi, les Français aussi, parce qu'il y a une banalisation dans ces affaires-là. Il peut même y avoir le pire, une sorte d'ironie, de goguenardise, d'esprit soi-disant humoristique. C'est un poison, je le redis. La seule défense, c'est la défense des principes.
Qu'est-ce que vous dites, Gilles Legendre, à le député qui était dans votre groupe il y a peu, Joachim Sonneforget, qui a lui relayé cette vidéo sur les réseaux sociaux? On parle d'un député de la nation. Comment qualifiez-vous cette faute? Qu'est-ce que vous lui dites?
C'est une faute grave et qui fait qu'en aucun cas, je ne regrette qu'il ait quitté mon groupe.
Il faut aller plus loin, des sanctions, des imaginer.
Il est libre de sa parole, il est représentant de la nation, il est responsable de ce qu'il dit. Les Français, les journalistes, les commentateurs, les autres politiques jugeront.
Un petit mot, Gilles Legendre, sur la déclaration du président de la République hier, si vous le voulez bien. Il était à Munich pour une conférence sur la sécurité. Il a indiqué que la Russie, de son point de vue, va, je cite, « continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales ». Est-ce que c'est ça aussi le risque pour les prochains mois et la prochaine élection? Est-ce que vous dites que désormais on doit apprendre à vivre avec les réseaux sociaux et avec des menaces extérieures?
Le président de la République a raison à l'évidence. Je vous rappelle que la dernière campagne présidentielle, avec ce qu'on a appelé de façon un peu familière les Macron leaks, c'est-à-dire les fuites, qui fait que le QG de la campagne du candidat Emmanuel Macron avait été pillé sur le plan informatique, ont montré que le risque n'était pas simplement imaginaire. Il existe. D'ailleurs, nous avons voté une loi assez tôt dans le quinquennat pour lutter contre les fake news en période électorale. Je ne prétends pas, et ça je préviens d'avance, une question que pourrait me poser Guillaume Roquette dans ce registre, je ne prétends pas qu'elle va résoudre tous les problèmes. Mais c'est une étape importante.
Alors
et elle pourra servir.
On se dit que si Emmanuel Macron évoque ce sujet hier, c'est qu'il a forcément en tête ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux.
Alors vous voyez, j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de proximité avec le président de la République, mais je ne suis pas encore dans sa tête.
On parlait du changement d'époque. Est-ce que vous avez le sentiment, autour de vous, qu'il y a des parlementaires, par exemple, qui peuvent être dégoûtés, entre guillemets, de la vie politique ou qui peuvent se dire, mais finalement, je vais tourner la page parce que ça devient trop compliqué, la pression est trop lourde?
Que nous ayons maintenant une conscience sensible, incarnée, que nous n'avions probablement pas au début de notre mandat, notamment pour tous ceux j'en profite pour saluer les parlementaires qui m'accompagnent dans ce studio, n'avaient pas eu d'expérience politique avant. C'est vrai que nous avons tous grandi là-dessus. Nous avons pris conscience de la difficulté de notre mission et des risques qui lui étaient attachés.
Et de la prudence aussi nécessaire ?
De la prudence nécessaire, absolument. Et on n'est jamais assez prudent. Et comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Mais alors, si vous pouvez penser un seul instant que ça nous amènerait, les uns et les autres, les 300 députés du groupe que je préside, à rentrer dans notre tente, mais c'est exactement le contraire qui se produit. Nous considérons que, précisément, c'est un défi de plus qui nous est présenté pour mener à bien notre mission, la transformation du pays, et précisément apporter notre pierre, même modeste, même partielle, même imparfaite, à cette cause que nous venons d'écrire pendant un quart d'heure et qui est fondamentale pour l'avenir de notre démocratie.
Juste avant de parler du remplacement de Benjamin Griveaux, puisque la campagne des municipales à Paris continue, est-ce que vous avez pu échanger avec Benjamin Griveaux ?
L'ai vu jeudi matin dans une réunion privée avec le responsable de sa campagne parisienne à laquelle je m'étais joint.
Vous avez tenté de le dissuader de...
Non, sa décision a été prise. Nous avions échangé par télégramme avant. C'était un moment d'ailleurs extrêmement... La messagerie télégramme. Excusez-moi, Guillaume Roquette, vous avez raison. Extrêmement émouvant. Mais vous savez, ce qui fait le drame humain d'une situation de cette nature, c'est qu'on ne peut la partager qu'avec soi-même ou au plus une ou deux personnes. Il faut se mettre à la place de ce que vous subissez dans cette situation-là. Et la politique ne peut rien. Et les amis politiques, aussi loyaux, fidèles soient-ils, ne peuvent rien non plus.
Il va falloir trouver un remplacement à Benjamin Griveaux pour cette campagne, ou pas ? Est-ce que le retrait de la liste a été envisagé ?
Il n'en est pas question, Vincent Derosier. Il n'en est pas question. Il y aura un successeur, un remplaçant à Benjamin Griveaux dans les toutes prochaines heures. Je me suis encore entretenu ce matin avec Stanislas Guérini, le délégué général de notre mouvement, qui a la charge finale d'organiser cette transition, de trouver cette solution, et qui le fait de main de maître, avec à la fois le désir d'aller vite et aussi le désir de respecter les procédures démocratiques internes.
Avant demain matin.
J'ai dit très vite.
Très vite.
Très vite. Les réunions, comme vous le savez, parce que vous en avez fait l'écho dans vos différents journaux, sur vos différents médias, se sont succédées. Il va y en avoir d'autres cet après-midi. Demain, il y a un bureau exécutif, l'instance de décision du mouvement demain soir. Nous aurons un remplaçant. Mais vous savez, sur la bataille parisienne, si je peux juste prendre 2 minutes.
D'un mot, parce qu'on a des questions à vous poser, comme Gilles Lejeune.
Mais peut-être que j'y répondrai par anticipation.
Allez-y.
Il y a 2 questions essentielles. Juste 2 questions essentielles. La première, est-ce que les Parisiens souhaitent que l'élection municipale se résume à un duel droite-gauche, un duel Dati-Hidalgo ?
Mais vous l'avez, votre candidat, c'est Cédric Villani, Gilles Lejeune.
Je vais vous répondre. La réponse est non. Madame Hidalgo, parce que son bilan est rejeté par les Parisiens sur des points essentiels, la sécurité, la propreté, le logement, la circulation, Madame Dati, parce qu'elle est en une aventure strictement personnelle, isolée dans son camp.
Sauf que ce sont les deux favorites des enquêtes d'opinion.
Oui, et la deuxième question, c'est est-ce que nous sommes capables d'empêcher ce duo, ce duel, ce match ? La réponse est oui, une condition, que nous mettions fin à nos divisions.
Alors, vous allez vous rassembler derrière Cédric Villani ?
Et ce que je n'ai pas dit ça. Ce que je souhaite, c'est que de cette épreuve terrible que nous venons de décrire depuis un quart d'heure, nous soyons capables de tirer une force.
Mais allons-vous la logique, Gilles Lejeune ? Vous dites, on ne veut pas d'Anne Hidalgo, on ne veut pas de Rachida Dati. Il y a un candidat aujourd'hui qui fait campagne, qui ne s'est pas retiré, et qui représente et qui veut incarner cette alternative.
Alors,
pourquoi, au nom du Rassemblement, n'iriez-vous pas derrière Cédric Villani ?
Parce que... Je ne dis pas qu'on n'ira pas, je ne dis pas qu'on ira, je dis que le processus doit se faire, et au risque de vous décevoir, le nom ne sortira pas de cette émission.
Et vous n'excluez pas qu'il puisse s'agir de Cédric Villani ?
Rien n'est exclu au système actuel, au moment actuel. Je ne le vois pas comme favori, compte tenu de l'histoire que vous venons de dire.
Personnel,
justement,
vous souhaiteriez.
Ce que je souhaite, c'est que le rassemblement le plus large ait lieu. Ce qui suppose notamment que dans ce rassemblement, nous soyons capables de tenir compte des idées, des convictions et des ambitions très fortes, très originale que porte Cédric Villani et de l'autre côté du programme, des idées, de tout le travail militant que nous avons mené, que j'ai mené, puisque j'étais aussi soutien de Benjamin Griveaux pendant les mois qui viennent de s'écouler.
Mais aujourd'hui, il y a un dialogue avec Cédric Villani.
Et notamment en nous appuyant sur les alliances extrêmement larges, qui est un des héritages Griveaux, serais-je tenté de dire, qu'il nous lègue et qui nous permet parfaitement de gagner si nous nous y prenons bien.
Vous venez de donner un début de réponse, là, Gilles Legendre. Vous nous dites qu'il faut à la fois la force militante, l'engagement d'En Marche et le programme original de Cédric Villani.
Non, j'ai dit qu'il fallait respecter les programmes de l'ensemble des candidats qui peuvent peu ou prou se rattacher. Mmh.
Vous parlez du deuxième tour déjà.
Nous verrons, Vincent de Rosier. Je dis juste, et là, vous ne pouvez pas me soupçonner d'être un ouvrier de la 25e heure. Cela fait des mois que je le dis, avec une très faible efficacité, je vous le concède, jusqu'à présent. Mais je reprends mon bâton de pèlerin. Et je considère que c'est l'enjeu capital, si précisément nous voulons éviter le duel Dati-Hidalgo. Et j'ajoute, que depuis jeudi, je remarque chez nos marcheurs qu'ils soutiennent Cédric Villani, qu'ils soutenaient Benjamin Griveaux et les têtes de liste et les équipes de Benjamin Griveaux. Une rage de reprendre la route, de militer, de tracter, et qu'ils militent avec une force redoublée pour ce rassemblement. Et nous n'avons pas le droit de les décevoir.
Est-ce qu'à La République En Marche, si le gendre aujourd'hui, il y a des discussions avec Cédric Villani et ses équipes pour envisager le rassemblement ?
Oui, il y a des discussions. Vous en êtes fait l'écho. Il y a des discussions. Elles sont au tout début de discussion. Nous verrons sur quoi ça peut déboucher. Je ne préjuge de rien. Nous devons trouver un ou une candidate qui soit capable d'incarner ce très large rassemblement. Mais c'est ça la priorité, et c'est ce à quoi travaille notre ami Stanislas.
Vous disiez, on ne retirera pas la liste, mais pour être sûr de comprendre, est-ce qu'il y aura au premier tour deux listes, une pour Cédric Villani et une qui succédera à Benjamin Griveaux, ou est-ce qu'il peut n'y en avoir qu'une seule ?
Il peut y en avoir qu'une seule, il peut y en avoir deux, il est trop tôt pour vous répondre. Ce qui est important pour moi, pour nous, et là-dessus, il y a un alignement très clair entre les principaux dirigeants de la majorité. Vous faisiez allusion dans un de vos journaux ce matin que j'entendais, une interview de Richard Ferrand dans le journal du dimanche ce matin. Nous sommes exactement sur la même ligne. Le rassemblement, les querelles n'ont plus lieu d'être, c'est fini. Nous avons une chance du fait, appelons-le pour ce qu'il est, du terrible électrochoc que nous avons subi, de tous nous ressaisir. Les Parisiens l'attendent.
Est-ce que vous regrettez l'éviction un peu prématurée, peut-être, de Cédric Villani ? Il a été exclu, peut-être qu'aujourd'hui vous regrettez.
Écoutez, tout le monde sait sur quelle position j'ai été dans la façon de gérer le cas Cédric Villani. Ça n'est plus mon histoire. Je vais vous le dire de façon très triviale.
Il faut lui rouvrir la porte.
Je m'en fiche.
D'accord. Plusieurs ministres.
Ce que je veux maintenant, c'est que nous créions les conditions d'un rassemblement. Maintenant ou plus tard, que nous soyons capables de créer cette dynamique que les Parisiens attendent. Ils ne veulent pas du match Hidalgo-Dalti. Je vous rappelle que depuis 2017, ils nous ont mis en tête, et largement en tête, à Paris, dans tous les scrutins présidentiels, législatifs, européennes.
On peut quand même parler des noms qui vont peut-être succéder à Benjamin Griveaux. Allez-y,
les noms possibles de plusieurs ministres. Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que pour vous, il est envisageable qu'un membre du gouvernement se lance dans cette campagne parisienne ?
Bien sûr que c'est envisageable. Bien sûr. Je ne dis pas que ça sera le cas. Mais c'est parfaitement envisageable. Il faut que nous trouvions... Je ne suis guidé que par un objectif, et je vais être obligé de radoter, le rassemblement. La personne qui soit capable d'incarner le rassemblement des marcheurs et des Parisiens.
Et c'est quoi les critères pour l'incarner ?
La dimension personnelle joue à l'évidence. La capacité, pour le jour où il ou elle sera élu, de gérer un système lourd, complexe, une administration difficile. Donc une expérience d'administration publique forte. Et puis, ce qui fait la magie d'un candidat ou d'une candidate, la dimension du rapport à Paris, de l'amour de la ville. Vous savez, ça n'est pas une mécanique. Ça n'est pas une mécanique, une campagne électorale. Mais
justement,
jamais.
Pourquoi ne pas privilégier dans ce cas-là un membre de la liste de Benjamin Griveaux qui pourrait monter, qui connaît Paris, qui a déjà fait campagne, mais, plutôt qu'un parachutage?
Mais qui vous dit que ça ne sera pas le cas? Je n'ai pris pour l'instant aucun parti, aucun pronostic devant vous sur ce qu'est la personne qui sera désignée.
Et ce n'est pas un aveu de faiblesse que, que la situation soit aussi ouverte, comme si vous aviez du mal à trouver quelqu'un qui s'impose?
Guillaume Roquette, le départ de Benjamin Griveaux date de quand?
Vous le saviez
jeudi
mercredi soir?
Jeudi soir.
Jeudi soir.
C'est jeudi soir que Benjamin prend sa décision. C'est vendredi matin qu'il la rend publique. Nous sommes quel jour? Dimanche? Vous trouvez qu'on est en retard?
Le journal du
non,
dimanche dit
ça
que
n'est pas sérieux.
La République reçoit aujourd'hui Agnès Buzyn pour en parler. Vous le confirmez?
Ben, moi, j'ai tendance à toujours croire ce qu'il y a dans le journal.
Une bonne pétition de principe.
Et quand les journaux annoncent que globalement, au-delà de Paris et du cas parisien, les municipales pour la République en marche s'annoncent catastrophiques, est-ce que vous croyez ça aussi?
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je veux là aussi saluer l'extraordinaire travail réalisé par Stanislas Guérini, mais aussi par Pierre Person, son adjoint, mais aussi toute l'équipe qui a mené les investitures. Nous sommes dans un défi qu'aucun parti politique n'a eu à assumer dans ces conditions-là pour une élection municipale.
Mais allez, on va faire une toute petite pause. On va faire une toute petite pause sur ce sujet. On va parler. On va faire une toute petite pause sur
d'accord.
ce sujet. Changer complètement de sujet. On va parler de la privatisation des aéroports de Paris. C'est l'heure, Gilles Legendre. On y reviendra juste après.
D'accord, très bien.
C'est l'heure de la question en plus.
Je suis discipliné.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Legendre, Éric Alt, président de l'association Anticor. Le 12 mars, 1 million de signatures auront été réunies afin d'obtenir un référendum concernant Aéroport de Paris. La collecte sera alors achevée, pourtant ce référendum n'aura pas lieu. Donc deux questions. D'une part, le vote de la privatisation par une majorité parlementaire permet-il d'ignorer la volonté d'un million d'électeurs? Et d'autre part, souhaitez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'un référendum soit organisé quand 1 million de signatures sont réunies?
Je vois
votre réponse.
Je vois bien le piège de la question. Vous savez que dans la Constitution actuelle, il faudrait, je crois, 4 600 000 signatures. Les porteurs de cette motion référendaire n'ont obtenu que 1 million. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, la Constitution s'applique. Et donc, le référendum n'aura pas lieu. Voilà.
Il n'est pas souhaitable pour un sujet aussi important.
Donc la loi, alors... La deuxième question, mais que je déconnecte la première, c'est de savoir si, en effet, nous pensons qu'il faut élargir les moyens de saisie de ce qu'on appelle dans notre jargon la démocratie délibérative, qui permet de faire en sorte que les citoyens puissent avoir une influence beaucoup plus directe. J'y suis foncièrement favorable. Et si j'ai un regret, un seul grand regret, depuis le début de notre mandat, c'est que nous ayons été stoppés net dans l'élan que nous avions pris pour réformer la Constitution, notamment pour y introduire ces dispositions de démocratie délibérative. Donc, non seulement j'espère, mais je pense qu'un jour, il existera un référendum d'initiative citoyenne
merci
dans notre
Gilles
pays.
Merci Gilles Legendre. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Gilles Legendre. Le débat est dirigé par Vincent Derosier.
Gilles Legendre, on va continuer à parler d'actualité et de l'actualité qui va faire toute la semaine prochaine. Le texte des retraites arrive dans l'hémicycle avec un nombre record d'amendements. Guillaume Roquette du Figaro vous interroge.
5 syndicats appellent demain à une journée morte dans les transports, dont l'impact n'est pas connu, même si à la RATP, il semble qu'il soit limité. Que leur dites-vous à ces syndicats, qu'ils se fatiguent pour rien, que de toute façon, maintenant, c'est fini?
Certainement pas, parce que cette posture serait inutilement blessante et je n'ai aucune envie d'être blessant avec les syndicats. Ils défendent une cause qui, à mon avis, n'est pas bonne. Nous en défendons une, qui est de réformer le système des retraites précisément pour créer des nouveaux droits pour les Français. Et ce que nous allons commencer à débattre demain, à partir de 16h, et pas seulement sur une semaine, Vincent Derosier, au moins 2, c'est précisément l'établissement de ces nouveaux droits pour les Français.
Alors parlons timing, si vous le voulez bien, Gilles Legendre. Il y a plus de 40 000 amendements qui ont été déposés, principalement par les groupes La France Insoumise et le Parti Communiste. On a du mal à comprendre comment tout cela rentre dans le calendrier imparti. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'interroge collectivement sur le 49-3, c'est-à-dire faire passer le texte sans vote. Est-ce que vous êtes en capacité de nous dire ce matin que c'est absolument exclu, que ça n'aura jamais lieu? Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'interroge encore et s'inquiète en disant que ce serait une catastrophe d'y recourir.
Nous faisions hier, nous étions ensemble, voyagions ensemble avec Richard Ferrand pour un déplacement en province, nous faisions un petit calcul. Les 42 000 amendements déposés par nos oppositions, mais essentiellement, pour ce qui est la plus grosse part du nombre, par la France Insoumise, cela voudrait dire 260 jours de débat plein, jour plein, samedi, dimanche, etc., sachant qu'on ne siège pas forcément tous les jours de l'année, à raison de seulement 5 minutes par amendement.
Et donc,
nous sommes très clairement dans le cas où un instrument crucial de la démocratie et du droit parlementaire, qui est l'amendement, droit constitutionnel, qui autorise n'importe qui dans l'hémicycle à porter la proposition qu'il souhaite et qui donc doit être sanctuarisé et dévoyé, et en vient à avoir l'effet exactement inverse, qui consiste à dévoyer le fonctionnement démocratique.
Je pense
que ça, nous devons le dire haut et fort, et qu'aucun Français n'ait le moindre doute que les 42 000 amendements ne portent en rien des projets d'amélioration,
les députés luttent
des propositions
avec les armes
qu'ils ont à leur disposition. C'est quoi à la disposition? C'est revenir sur le fait qu'il y a une majorité et une opposition.
Mais vous vous donnez deux semaines, c'est ça, pour la deux discussions?
Au moins deux semaines.
Est-ce qu'entre deux semaines et 260 jours, il n'y a pas une bonne moyenne? Pourquoi aller si vite alors que ça fait deux ans qu'on attend cette réforme dont on nous dit qu'elle est la principale du quinquennat et dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'est pas encore très claire pour beaucoup?
Mais Guillaume Roquette, ce qui fera l'intelligence de ce débat, sa pertinence, sa légitimité, c'est précisément qu'on puisse y aborder les vraies questions. Et nous sommes évidemment prêts à entendre les critiques, à enregistrer des propositions, voire les faire nôtres. Attendez, c'est très important ce que dit Guillaume Roquette.
Mais
si je réponds, le cas est très différent là, puisque précisément le but n'est pas d'organiser le vrai débat, le but est de le bloquer, de le stopper.
Demain,
nous avons un fort risque pour que le débat commence par l'idée de rejeter le texte dans son ensemble. Je suis désolé, ce texte, nous l'avons porté pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative, et nous y avions travaillé depuis maintenant plus de deux ans, avec les syndicats, avec les organisations.
Le calendrier, la question de Guillaume Roquette.
Le calendrier, oui.
S'il en faut une troisième, nous prendrons la troisième.
Il faut un 49-3.
Je ne veux pas rentrer dans ce débat, Adrien Jeanne.
Mais Emmanuel Macron, lui, n'a pas exclu le 49-3.
Ça serait placé... Mais rien n'est exclu. La Constitution donne des armes pour que le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire respectueux aussi des droits de l'opposition, fonctionne normalement. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que précisément, ce serait me mettre tout de suite au même niveau que nos oppositions, c'est-à-dire sur les questions de procédure, alors que ce que nous souhaitons, nous, c'est un débat sur le fond.
Alors juste que vous dites peut-être une troisième semaine, comment est-ce qu'on fait rentrer 260 jours de débat, comme vous le dites, en trois semaines? Quelle est l'astuce?
Alors, heureusement, nous étions partis sur l'idée d'un amendement égal 5 minutes. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et puis, peut-être que le débat progressant, si on arrive à trouver la porte qui fasse qu'ils se disent des choses intéressantes, nous avons un contre-exemple, ou un exemple plus exactement vertueux, c'est ce que nous avons fait à l'automne sur la loi bioéthique. Il y avait de la confrontation, il y avait des oppositions. Il y avait des sujets sur lesquels personne ne pensait pareil. Et puis, on a eu ce débat. Et parfois, il était vigoureux, mais il a fait honneur au Parlement. Pourquoi ne restons-nous pas dans cette même idée, cette même image? Le sujet mérite tout de même l'avenir des Français, la protection de leur retraite, tous les nouveaux droits, j'espère que nous aurons le temps d'y revenir, que nous sommes en train d'introduire, y compris ceux que nous avons introduits à la suite des négociations cette semaine-ci, sur la pénibilité, sur les transitions, sur le fait que seront pris, seront calculés.
La pénibilité, c'est compliqué, les discussions quand même.
La pénibilité, c'est pénible, c'est ça ? Oui, vous avez raison. Mais nous avançons et nous allons continuer d'avancer. Mais les nouveaux droits...
Est-ce que justement, il ne faut pas prendre le temps de discuter, mais prendre
allons...
la position à son propre jeu et renoncer à votre calendrier très ambitieux ?
Mais Vincent de Rosier, qu'est-ce qui vous fait dire que ce calendrier serait ambitieux par rapport à la tradition parlementaire ?
Parce qu'il y a les élections municipales...
Non, deux semaines pour un texte de cette nature, c'est largement suffisant si tout le monde joue le jeu du débat démocratique normal.
Mais le reporter, comme le propose l'ancien marcheur Mathieu Orphelin, ça s'est exclu.
Je pense... Ah bah, exclu ? Ah bah oui ! Oui ! Non, écoutez, il y a un moment où il faut que les institutions fonctionnent normalement. À partir du moment où une partie de nos oppositions dénie ce droit de fonctionner normalement, notre devoir est de faire en sorte que nous les respections et que nous les fassions respecter. Maintenant, nous allons tout faire. Il y a ici deux des sept rapporteurs de ce texte de loi, Guillaume Gouffier-Chat, Jacques Maire, il y en a toute une, cinq collègues aussi. Ils sont totalement déterminés à faire en sorte que ce débat ait lieu, qu'il ait lieu au sein de notre propre groupe, de notre propre majorité, avec nos alliés du Modem et d'Agir. Et puis, ce débat ait lieu avec l'opposition. Nous ne céderons à aucune provocation, à cette tentative d'obstruction. Nous opposerons une détermination massive, sereine et constructive.
Avez-vous une part de responsabilité dans le trouble qui entoure ce texte, et notamment avec ces reproches d'amateurisme ? On a le sentiment que, par exemple, sur un point aussi essentiel que le calcul du point de retraite, vous n'êtes pas encore au point. Si vous me permettez ce jeu de mots facile et involontaire.
Reconnaissez que ce n'est pas très rassurant pour les Français qui vous voient...
Nous avons un texte qui est d'une immense complexité, je le reconnais. Et cette complexité est à la hauteur de son ambition. Et son ambition, elle est de réinventer en profondeur la protection sociale dans notre pays autour de nouveaux droits qui soient des droits réels et pas des droits formels. C'est-à-dire envers les femmes et les femmes seules.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être précis, par exemple, sur le mode de...
Par ailleurs, je vais répondre, Guillaume Roquette, je vais vous répondre sur le point. Par ailleurs, c'est une loi qui a comme particularité... d'installer le nouveau régime, ses règles du jeu, ses principes, et de confier ensuite à une gouvernance, à un pilotage, pour parler de façon plus simple, le soin de le faire vivre. Le régime de retraite actuel, il date de 45. Et c'est les mêmes règles, c'est le même cadre que 45. Et pourtant, son fonctionnement n'a strictement rien à voir avec ce qu'il était en 45. Donc ce régime, le jour, ce nouveau régime, le jour où il va voir le jour, si je puis dire, c'est-à-dire aux alentours de l'été, il va commencer à vivre, à respirer, à s'enrichir. Donc il est normal que tous les points ne soient pas détaillés dans le texte. Sur le point, alors là vraiment, c'est la polémique inutile par excellence. Qu'avons-nous dit ? Nous avons dit, et là aussi c'est un nouveau droit, que les pensions... n'évoluerait pas en fonction de l'inflation, comme ça a été le cas historiquement, mais en fonction de l'évolution des revenus, ce qui est beaucoup plus favorable aux pensions. Donc là aussi, encore un nouveau droit. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, il existe des instruments pour mesurer l'évolution des salaires, mais le principe du régime universel, c'est que toutes les activités rentrent dans le même régime.
Vous êtes en mesure de rassurer les Français, les indépendants, les professions libérales, les
agriculteurs. Donc, il s'agit juste de créer l'instrument qui mesure, qui permet de consolider l'ensemble de ses revenus. Je vous assure que l'INSEE a fait dans sa vie des choses bien plus compliquées que ça et qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant que les spécialistes de l'INSEE soient capables de nous sortir l'instrument qui permettra d'indexer.
C'est une polémique inutile. Peut-être une autre polémique que vous allez la démonter plus vite. Qualifier d'inutile une autre polémique peut-être, mais il y a des tensions dans le groupe majoritaire. Vous êtes le patron. On en parlait en introduction. Il y a eu 14 départs depuis le début du quinquennat. Que se passe-t-il ? Est-ce que cette majorité est tenue, Gilles Legendre ?
Vincent de Rosier, nous venons tous d'horizons extrêmement différents. Nous incarnons tous des expériences professionnelles extrêmement différentes. Nous portons tous des sensibilités politiques extrêmement différentes. Et, cerise sur le gâteau, en juin 2017, 70% des membres de mon groupe n'avaient jamais exercé le moindre mandat politique et une grande partie d'entre eux jamais détenu la moindre carte d'un parti politique. Et c'est ce que voulaient les Français. un renouvellement profond de notre vie politique. À partir du moment où nous avons porté ensemble ce pari d'un culot inouï, mais qui présente beaucoup d'avantages, et j'espère que je pourrai vous le démontrer, il est normal que dans notre histoire, dans le cours de notre histoire, certains malentendus aient pu surgir, qui se soient traduits par la volonté de tel ou tel.
Donc c'est 14 malentendus, c'est 14
départs. C'est une respiration, et c'est légitime, ce n'est en aucun cas le symptôme d'une crise. Mais derrière ce renouvellement, derrière, j'allais dire, cette inexpérience que nous avions au début, mais que nous comblons très rapidement, il y a une richesse inestimable. Parce que nous n'étions peut-être pas des as de la politique. Mais enfin, quand vous dirigez une école en zone sensible, quand vous êtes dirigeante ou tout simplement aide-soignante dans un EHPAD, quand vous travaillez dans un hôpital de nuit, quand vous êtes professeur, quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes expert du fisc, vous vous rendez compte le réservoir d'engagement et d'expertise qui se trouve dans ce groupe et qui se voit jour après jour, depuis 2 ans et demi, dans le travail que nous produisons, d'enrichissement des lois, et qui fait, par ailleurs, que depuis 2 ans et demi, toutes les lois ont été votées.
On va changer de sujet. Adrien Ginde, justement, ce plan d'Emmanuel Macron pour lutter contre les communautarismes, le président sera à Mulhouse mardi. Adrien Ginde, TF1, allez-y.
Avec des annonces, une première partie la semaine prochaine, une autre partie la semaine suivante, si on a bien compris les éléments communiqués par l'Élysée à ce stade. Pourquoi est-ce que ça vient maintenant, le communautarisme? Gilles Legendre, si on a bien compris, c'est un sujet très important auquel le président est très attaché, mais ça fait 2 ans et demi que vous êtes là, vous avez traité certes beaucoup de sujets. L'avenir de la société en dépend-il?
L'avenir de la société, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Et que je pense qu'il est important que ce soit la parole présidentielle qui l'installe dans le débat public. Nous avons pris des initiatives. Notre groupe lui-même a produit un document il y a quelques jours avec des idées très précises. Nous les avons d'ailleurs portées au chef de l'État. Il en fera évidemment l'usage qu'il le souhaite. Mais pourquoi est-ce fondamental? Parce que ça touche à un principe essentiel qui est le principe républicain. C'est quoi le communautarisme? C'est la volonté d'un certain nombre de personnes ou de groupes de personnes, organisées ou non, de se mettre en retrait des règles de la République et de considérer que ce qui les unit vaut plus que les valeurs de la République. Ça n'est pas acceptable.
Mais il y aura un avant et un après, pardon, pour être très concret, Gilles Legendre, est-ce qu'avec les mesures que le président de la République va annoncer ces prochains jours, prochaines semaines, on va se dire, ah tiens, on entre dans une nouvelle époque, la société va fonctionner différemment?
Alors, d'abord, le président est très attendu à juste titre, parce que comme je viens de le dire...
Qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il pourrait dire?
Je suis désolé, il va falloir attendre quelques jours. Ça, le président ne m'a pas chargé de vous communiquer les termes de son discours. Donc ça, je vais vous décevoir. Mais on voit bien que ce qui compte, c'est de faire en sorte que, de façon très concrète, dans les territoires, là où la menace du séparatisme, ce qui est l'autre versant du communautarisme, se fait plus forte, nous soyons capables de renforcer les instruments qui existent. Nous ne partons pas de zéro. Il y a beaucoup de lieux de culte qui sont des lieux dans lesquels peuvent germer des tentations séparatistes ou radicales qui ont été fermées. Il y a à surveiller les écoles. C'est très important. Il y a à faire en sorte que il n'y ait aucune dérive dans un certain nombre de quartiers, dans la façon dont des groupes de personnes ou des associations culturelles, peuvent éventuellement jouer un rôle négatif par rapport à ces sujets. Le président de la République donnera sa vision et fera part de ses propositions, exactement, pour être précis, de ses décisions.
L'heure tourne, Gilles Legendre, on va passer à Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Alors, des réponses courtes. Pour ou contre, Gilles Legendre, est-ce que vous êtes pour une consultation des Français par référendum sur les propositions de la Convention citoyenne sur le climat?
J'y suis plutôt favorable, oui.
Plutôt favorable.
Plutôt favorable. C'est un peu ce qu'a exprimé le président de la République. J'assistais d'ailleurs à cette rencontre quand il est allé à la rencontre des membres de cette Convention citoyenne. Il faut voir ce qui sort de cette Convention.
Même si c'est très ambitieux.
On verra. Vous savez... La question de l'articulation entre cette démocratie directe et la démocratie représentative, elle doit être posée. C'est pas parce qu'on demande un avis aux Français qu'on doit prendre tel quel. Regardez le grand débat qui a eu énormément de succès auprès des Français. Ça ne veut pas dire qu'on a pris toutes les idées et que toutes les idées sont exercées. Mais le fait que ce débat ait lieu est un facteur extrêmement éclairant et le référendum donnerait une forme de légitimité à ce premier exercice de démocratie directe.
Pour ou contre la réforme des institutions et la réduction du nombre de parlementaires, vous êtes directement concerné?
C'était un engagement de notre part, très fort et très apprécié des Français. Aujourd'hui, il est bloqué pour une raison très claire, c'est que nous avons besoin de l'accord du Sénat pour faire ce genre de réforme, réforme constitutionnelle ou réduction du nombre de parlementaires. Tant que le Sénat bloque, il est extrêmement difficile d'envisager cette réforme. Il est même impossible de l'envisager. Est-ce que le Sénat est prêt à assouplir sa position? On verra bien.
Le Parisien nous apprend ce matin que Manuel Valls et Emmanuel Macron se reparlent. Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Manuel Valls au gouvernement?
Alors, je suis désolé, mais ça fait un moment que Manuel Valls et Emmanuel Macron se parlent.
L'âge de guerre est enterré, alors.
Je ne rentre pas dans les relations entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. La seule chose que je peux dire, et qui est réelle, c'est que pendant quelques mois, notre groupe a accueilli Manuel Valls dans ses rangs. Au tout début du quinquennat, avant qu'il ne donne sa démission.
Donc il est le bienvenu.
Et même, non, vous voulez parler à ma place? Pas du tout. Et même s'il a été remplacé par un formidable député, justement celui qui a travaillé sur les questions de communautarisme, qui est Francis Choix, Manuel Valls était un poids lourd de notre majorité, et pour notre groupe, une perte quand il est parti. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il avait fait d'autres choix de vie.
On va passer à Question Net. Bonjour Marie-Pierre Haddad, c'est l'heure
Bonjour
de Question Net.
Le grand jury, Question Net.
Et bonjour à Gilles Legendre.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Il y a eu plusieurs commentaires d'internautes qui sont d'accord avec vos propos que vous avez eus en début d'émission sur le fait que oui, il doit bien avoir une frontière entre vie privée et vie publique quand on fait de la politique. Mais par contre, Pauline, elle ne comprend pas du coup qu'en période de campagne, la famille devienne un argument électoral, et c'est notamment ce qu'elle reproche à Benjamin Griveaux. Est-ce qu'à partir de maintenant, vous conseillez par exemple aux futurs candidats de se dire « bon, on se concentre juste sur de la politique et on arrête toute cette communication sur la vie privée ?» Est-ce qu'il faut arrêter avec cette méthode ?
Ce serait un moyen commode. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit très réaliste. Parce que quand les Français choisissent un maire ou une maire, un député ou une députée, un président ou une présidente de la République, ils ne choisissent pas qu'un programme, ils ne choisissent pas qu'un parcours professionnel
Donc,
ou politique.
Il faut une frontière, mais
ils
malgré
ont besoin...
tout, pour vous, c'est
mais
quand
attendez,
même lié.
Est-ce que les Français, connaissant la femme d'un candidat ou l'époux d'un candidat, s'immiscent subrepticement dans la vie privée du candidat? Il ne faut pas raconter d'histoire. Non. À l'évidence, non. Nous savons tous de quoi nous parlons quand nous parlons de vie privée. Mais dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des occasions où parfois les conjoints sont invités dans des circonstances professionnelles. Est-ce que pour autant ça veut dire que l'entreprise est en train d'envahir la sphère privée?
Et il y a aussi un autre sujet sur lequel les internautes voulaient vous interpeller. Je cite plusieurs noms, comme ça ils se reconnaîtront. Nicolas, Paul, Michel, Gérard, sur la page Facebook de RTL. Ils vous reprochent une petite phrase que vous avez déclarée en pleine crise des Gilets jaunes. C'était en décembre 2018. Vous avez dit « Notre erreur est d'avoir été probablement trop intelligent, trop subtil ». Et cette phrase continue, même maintenant, à vous être reprochée.
Mais vous savez qu'elle continue aussi grâce à vous, parce que la dernière fois que je suis venu invité au grand jury RTL, vous m'avez posé cette question.
Et donc, comment vous expliquez que maintenant...
Dois-je apporter la même réponse?
Justement, elle a une durée de vie spectaculaire, cette petite phrase.
Ça ne passe toujours pas, alors qu'on est en 2020, que cette phrase date de 2020.
Mais ça, vous savez, nous avons appris quelque chose qui n'est pas sans référence à la conversation que nous avions au début de cette interview. C'est que les réseaux sociaux jouent assez bien la répétition et l'humour de répétition. Donc, je le prends comme ça. Je me suis expliqué très souvent sur cette phrase. Elle était mal comprise et donc elle était malheureuse. Et je n'aurais pas dû la prononcer. Mais enfin, franchement, là-dessus, pour moi, l'affaire est terminée.
Ça n'arrivera plus sur les retraites, ce genre de petites phrases.
Mais peut-être que si. Mais oui, nous ne sommes pas des êtres parfaits, Vincent de Rosier. Et ce n'est pas très grave. Je ne suis pas sûr que ce soit ça que les Français attendent de nous.
Oui, une dernière question. Alors, dans l'actualité, il y a un collectif de personnalités bretonnes qui a lancé vendredi un appel pour, je les cite, la sauvegarde de la culture et des langues de Bretagne. Ils demandent un plan Marshall pour sauver cette langue locale. Est-ce que, d'après vous, il faut rendre obligatoire l'enseignement des langues régionales à l'école pour pouvoir les préserver?
Alors, attendez, on ne peut pas mieux tomber. Jeudi soir, dans la nuit, nous étions je regarde mes collègues dans l'hémicycle, en train de voter à l'unanimité des présents, tous les groupes, et l'occasion est suffisamment rare pour que je le souligne, une proposition de loi portée par le groupe Liberté et Territoires, précisément, qui renforce très fortement, accompagne très fortement le développement des langues régionales sur tous les territoires.
Il y a des députés qui vous reprochent et qui disent qu'au contraire, ça a été vidé de sa substance et qu'au final, pas grand-chose ne va changer.
Alors, si ça a été vidé de la substance, dites-moi pourquoi ça a été voté à l'unanimité de l'ensemble des groupes parlementaires.
Et donc, sur le point précis de l'enseignement à l'école.
Mais bien sûr, tout le monde est favorable à ça.
Il nous reste un tout petit peu de temps, une question d'écologie. On a peu parlé d'écologie, Guillaume Roquette.
Volontiers.
Oui, le président de la République a fait des déclarations pour montrer son engagement contre le réchauffement climatique. Et pourtant, jeudi prochain, le premier réacteur de Fessenheim va fermer, alors même que l'énergie nucléaire est, parmi les principales sources d'énergie, celle qui émet le moins de CO2. Est-ce contradictoire ?
Non, ce n'est pas contradictoire. Vous savez parfaitement la dimension symbolique que revêtait Fessenheim depuis le début. L'engagement écologique, c'est évidemment au premier rang la limitation des émissions de CO2 pour protéger la couche d'ozone. Mais nous savons aussi que la question nucléaire n'est pas sans poser des problèmes, et notamment la question de la sécurité, du pilotage. Les équilibres énergétiques sont maintenant pilotés au plus près. C'était l'objet de la loi sur la transition énergétique et écologique que nous avons votée. Elle est parfaitement capable de concilier ces deux objectifs.
Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez le rassemblement avec Europe Écologie Les Verts dans un futur proche, c'est quelque chose que vous souhaiteriez ?
Écoutez, ça c'est une manière d'aborder le sujet de façon politicienne, et je comprends parfaitement que ça puisse vous préoccuper. Moi, pour moi, marcheur et un des responsables de la majorité, parmi beaucoup d'autres, le sujet n'est pas celui-là, et notamment celui de mon groupe n'est pas celui-là. Le sujet, c'est comment nous accélérons cette transition écologique. Et ça, je sais que avec l'octroi de nouveaux droits, j'en ai
à Paris,
cité quelques-uns, et à Paris notamment, mais cette question écologique est au cœur. Je vais vous dire, si j'ai une minute, nous avons besoin, après les municipales, de mettre l'accélérateur sur trois grands domaines. La question écologique, et ça je sais que le gouvernement y est prêt, la question des nouveaux droits, nous n'en avons pas dit grand-chose, et je le regrette, mais notamment avec une grande loi sur la dépendance.
Et le troisième point, Gilles Legendre,
il va falloir terminer. Pas, c'est, on en a dit un mot tout à l'heure à propos du communautarisme, c'est ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire notamment la sécurité des Français.
Merci beaucoup Gilles Legendre.
Je vous remercie.
C'est la fin de ce grand jury, passez un excellent dimanche et à dimanche prochain.